Pour nous amuser. Allô, Jafar ? J'appelle Jafar. Ici Claude. Réponds. À toi, Jafar.
À qui tu parles ?
Jafar ? Ici Claude. Où es-tu ? Tu ne me reçois pas ? Je vais enregistrer ce message. Jafar, ici Claude. Je t'appelle de la planète Perdide. Hémisphère Nord, 73e secteur. 16h50, temps universel. Jafar, les folons nous ont attaqués par surprise. Ça a été horrible. Annie est morte. J'essaie d'atteindre la zone des Dolong.
Cette semaine, dans ce coup de projecteur, retour sur une carrière atypique, celle de René Laloux, l'extraterrestre de l'animation française. Tristement méconnu du public actuel et faisant pourtant partie des principales inspirations avec Paul Grimaud et Jean-François Laguioni des maîtres de l'animation japonaise que sont Isao Takahata et Hayao Miyazaki, René Laloux reste encore aujourd'hui un des seuls réalisateurs d'animation français à s'être attaqué à la science-fiction. À la fois réalisateur et scénariste d'une poignée de courts-métrages et de trois longs-métrages d'animation, à savoir La Planète Sauvage en 73, Les Maîtres du Temps en 80, et Gandhar en 87, René Laloux s'est rapidement imposé comme un réalisateur qui méditait ardemment pour une certaine émancipation du cinéma d'animation, des carcans hollywoodiens et de l'univers développé par Walt Disney depuis la sortie de Blanche-Neige en 1937. Pourtant, ce dernier a toujours refusé l'étiquette d'auteur, préférant celle d'explorateur de talent.
J'ai pas une ambition de l'auteur complet qui fait tout, le dessin, la mise en scène, le scénario, la musique, j'ai pas cette mégalomanie-là. Donc si je rencontre un très bon dessinateur, un monsieur qui a beaucoup de talent, qui a un univers graphique extraordinaire, comme Topor, comme Mébus ou Kaza, je préfère travailler, jouer un peu l'explorateur de cet univers et en tirer parti pour raconter une histoire, je préfère ça.
En effet, René Laloux a toujours su s'entourer de dessinateurs de talent pour développer ses mondes fictionnels. Tout d'abord avec Roland Topor, entre autres peintre, dessinateur, acteur et poète, avec lequel il a réalisé le court-métrage Les Escargots en 1963, premier film de science-fiction animé français, puis le long-métrage La Planète Sauvage en 1973, décrivant une planète où une espèce humanoïde gargantuesque a pris des animaux comme animaux de compagnie.
Il faut apprendre à s'en servir, regardez. Maintenant, posez l'animal.
C'est amusant. Laissez-moi essayer.
Pas si fort. Cet animal est fragile. Vous pouvez lui faire mal. Comment allez-vous l'appeler ?
Je vais l'appeler Tiva, comme moi.
Mais ce n'est pas un nom d'homme. Il faut l'appeler fidèle ou rapide. Regardez comme il gesticule, il a l'air terrible.
Je vais l'appeler Terre. Terre. Terre.
La Planète Sauvage a fait l'effet d'une bombe dans le cinéma d'animation. Présenté au Festival de Cannes, le film d'animation reçoit pour la première fois le prix spécial du jury en plus d'un très bon succès en salle, lui conférant le statut d'œuvre culte, à la fois intelligente et distrayante. Renversant les schémas établis, tant du point de vue des rapports de pouvoir que du temps, René Laloux poursuit son exploration des thématiques de science-fiction, à travers le voyage dans le temps et la perte d'identité lors de sa collaboration avec Mébius, pierre angulaire de la bande dessinée française pour son deuxième film, Les Maîtres du Temps, sorti en 1981.
Enfin, où étiez-vous ?
Si tu crois que c'est facile pour nous, avec cette chose qui pense...
Inutile d'insister. C'est trop solide pour vous. Mais ôtez-moi mon casque. L'air de gamma 10 est respirable. Écoutez, c'est vous qui devrez piloter la navette. Il faut vous brancher sur mes pensées et je vous guiderai.
Vous devrez ramener la capsule à bord du vaisseau, dire à Silva de s'accrocher à la comète bleue et ensuite aller sauver Piel.
Et t'abandonner ici ? Pas question ! Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, Jade. Partons d'ici et... Et on reviendra un peu plus tard pour sauver Jafar.
Bien sûr. Yula a raison.
Non, Yula n'a pas raison. Et il le sait très bien. Yula, j'ai honte de toi. Tu es un froussard, un foie jaune, un pleutre et un poltron. Et en plus, tu es un carpon, un trouillard, un molasson. Tu sais parfaitement ce qui resterait de Jafar dans quelques heures si on l'abandonnait ici.
Ah mais je suis de taille à me défendre.
Pas contre ça, Jafar. Pas contre cette chose.
Quelle chose ?
Ça n'a pas de nom, Jafar. C'est de la pensée pure.
Ne crains rien, je suis plus fort que la pensée pure.
J'ai bien peur que non, mon pauvre. Elle va t'absorber comme elle a absorbé tous les autres.
Quels autres ?
Tous ceux qui ont posé le pied sur Gamma 10. En apparence, ce sont toujours des individus normaux. Mais en réalité, ce sont plus que des marionnettes, les fantins de cette chose.
Courant de films dépolitisés, René Laloux s'est fait le défenseur de la différence, qu'il explore à l'aide du dessinateur de bande dessinée Philippe Caza, figure du magazine Metal Hurlant, dans son dernier long-métrage Gandahar, paru en 1987. Narrant l'histoire d'une guerre se déroulant sur plusieurs strates temporelles, Laloux et Caza dépeignent tant l'idéal d'une société vivante en harmonie avec la nature, ravagée par l'arrivée d'une autre société, elle industrielle, que les dérapages technologiques auxquels se risque toute société se reconnaissant comme suffisamment développée.
Enfin, où étiez-vous ?
Si tu crois que c'est facile pour nous, avec cette chose qui pense...
Inutile d'insister. C'est trop solide pour vous.
Tu crois ? Notre peuple est ennemi du tien.
Oui.
Prêt à vous attaquer ?
Oui.
Capable de vous vaincre ?
Non.
Tu ne devines pas le nom de notre peuple ? Avec ses corps, ses têtes, ses membres faits n'importe comment... Assembler n'importe comment. Les transformés. Ceux que Jasper nomme les transformés. Pas des transformés, des malformés, des erreurs monstrueuses, des jeux de hasard, des mutants ratés. Des Gandahariens. Oui, des Gandahariens, des descendants de Gandahariens comme toi. Des victimes de vos jeux génétiques et de vos recherches d'alors dans le domaine des mutations.
Comment imaginer ?
Des Gandahariens, devenus la honte de Gandahar et qu'on cache sous terre, comme autant de preuves d'échec.
Pendant mes épreuves de servant, j'ai étudié votre histoire. Je n'imaginais pas...
Bien sûr, personne n'imagine.
Rêve de gamin, né de ses longs métrages, la production même des films de René Laloux relève de l'Odyssée. Si ces films paraissent aujourd'hui lents, voire saccadés, souffrant d'homogénéité d'animation, il ne faut pas oublier la difficulté que représentait la production d'un long métrage d'animation au tournant de la double décennie des années 70 et 80. À l'époque où l'animation ne disposait pas encore des moyens dont elle dispose aujourd'hui, ce dernier s'est vu devoir délocaliser sa production dans les pays du bloc de l'Est, tels que la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou encore la Corée du Nord, en plein contexte de guerre froide. Alors en collaboration avec des équipes n'ayant pour la plupart jamais travaillé avec les étrangers et ne parlant aucune langue en commun.
On a été les premiers Français à choisir la mondialisation de l'esclave. C'est-à-dire, on va où l'esclave est le moins cher. Et à cette époque-là, c'était l'esclave communiste. En tenant compte de la chose que moi, j'étais sympathisant plutôt de gauche, et qu'on leur apportait des dollars. Donc, ça leur rendait service. Et qu'on travaillait avec des gens où on avait un certain accord de pensée, de conception, de vision des choses, d'idées de la suprématie du scénario, des idées sur la forme, du fond sur la forme, par exemple, etc. Il y avait une complicité qui n'était pas dite, mais qui était réelle, ce qui faisait un terrain extrêmement favorable pour travailler. Ceci dit, je n'étais pas le premier capitaliste mondialiste à être à Prague. Parce que quand je suis arrivé à Prague en 67, il y avait Gene Deitch qui venait des États-Unis et qui faisait des Tom et Jerry dans le plus beau studio de Prague, avec le plus beau banc-titre de Prague. Les Américains avaient déjà tout compris.
Techniquement parlant, René Laloux a toujours fait figure d'ovni, fustigant les usages classiques du celluloïde, ne rodant pas selon lui toutes les aspérités du trait du dessin papier animé utilisé lors de la production de ses premiers cours, ainsi que pour La Planète Sauvage.
On aime... Là, c'est bon parce que les couleurs sont belles. Et bon, Mais disons que ça, c'est un traitement gouache, avec un traitement à la plume ici. Bon, ça, c'est Wang Fo. C'est réussi dans ce genre. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était ça. C'était La Planète Sauvage, c'est ça. C'est ce graphisme compliqué, riche, avec des couleurs complètement raffinées, pastels, mélangées avec des bleus, des rouges, des sépias, des bruns. Est-ce que bon, c'est ça? Où c'est ça? Là, il n'y a aucune différence entre le décor et le personnage qui bouge. Avec le modelé autour du personnage. Ça, c'est de l'animation en phase. Ça, c'est génial, mais ça coûte cher. On peut imiter, mais tu n'auras jamais... Tu peux imiter sur ces lieux, mais tu n'auras jamais ce traitement-là. Tu n'auras jamais la finesse de ce traitement-là. Que sur papier... Le papier réagit quand même différemment que le cellulo. Cellulo, c'est une matière barbare. Papier, c'est une matière très noble.
Difficile donc de résumer la carrière de cet immense cinéaste d'animation que fut René Laloux, méritant pourtant mille retours et hommages pour cet extraterrestre du cinéma français qui nous a offert un des plus beaux univers animés qui nous ait été donné de voir. C'est donc avec tendresse que je vous quitte sur ces douces notes spatiales de fin des Maîtres du Temps, en espérant vous retrouver pour un prochain coup de projecteur.
Merci beaucoup Benoît pour ce retour sur l'œuvre d'un cinéaste immense mais méconnu, comme on dit. Il est 8h19, vous êtes toujours à l'écoute de Transistor et tout de suite c'est l'heure des sciences. Bonjour Maxime.
Bonjour Rémi.